La parole à François de Bruyne qui va nous parler de la présence et de l'écoute du rap en public. Une banalisation inachevée. Donc, pour présenter rapidement François de Bruyne, il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au département culture à l'université de Lille 3. En attendant que le PowerPoint soit prêt, je continue à présenter François. Ses recherches portent sur les transformations de l'expérience musicale, les mutations des industries culturelles et créatives et la socio-histoire des cultures musicales populaires.
Merci Stéphanie. Alors, pour continuer à déplacer la référence à la Clica faite par le colloque, effectivement, on peut dire que les musiques hip-hop ont duré. Elles ont pris une place pour le moins prépondérante dans les cultures populaires, dans les cultures médiatiques, dans nos oreilles, dans l'économie de la musique. Les titres les plus écoutés en streaming ces trois dernières années sont très majoritairement, ici comme ailleurs, des titres de rap. La présence relativement ordinaire des musiques hip-hop dans l'expérience des villes contemporaines pourrait être un indice de plus de cette progressive banalisation. Et puis, on pourrait aussi évoquer, comme l'a bien montré Murray Formanière, que comme objet académique, il s'est aussi relativement banalisé à certains égards. Pour autant, l'hypothèse que je vais défendre ici est que ce processus de banalisation du rap reste inachevé, et cette hypothèse, comme elle est un peu contre-intuitive pour moi, j'en reparlerai un peu plus tard. Plus concrètement, je propose de focaliser l'attention sur les formes de présence et d'écoute du rap dans les espaces publics urbains. Et je vais le faire à partir de trois pratiques manifestes qui sont loin de rester toujours des activités anodines suscitant l'indifférence, à savoir, premièrement, danser, aussi bien esquisser quelques pas de danse, un casque sur les oreilles, performer une chorégraphie devant des équipements culturels ou dans la rue, mais aussi se produire dans les lieux publics pour enregistrer des vidéos qui seront ensuite publiées sur le net. Chanter de manière synchronisée avec la musique diffusée dans les oreillettes, mais aussi exercer son flow et ses textes avec ou sans accompagnement musical. Et puis enfin, écouter et diffuser du rap en public, en utilisant des enceintes portatives, son téléphone, dans la rue, les gares, les transports en commun, les jardins publics. Mais aussi stationner ou traverser la ville dans une voiture dont les enceintes propagent des sonorités hip-hop à très fort volume sonore. Alors concernant ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je dois absolument préciser que en fait, je n'ai pas fait d'enquête sur le rap, mais que c'est le rap qui s'est imposé dans mes enquêtes. Le matériau ethnographique que je vais mobiliser est issu d'une recherche au long cours sur les pratiques d'écoute en public que j'ai commencé à mener à la fin des années 1990, que je continue encore aujourd'hui, sur des terrains français, anglais et parfois australiens, où il s'agit de comprendre la place ordinaire de la musique et de l'écoute en observant ce qui se passe dans les espaces publics urbains. Or, de fait, à la différence d'autres genres musicaux, les musiques hip-hop sont fréquemment devenues un des traits saillants des situations que j'ai pu observer, tout du moins en France. Et c'est justement parce que je n'ai au départ pas fait d'enquête spécifiquement sur le rap que j'ai pu repérer qu'il était publiquement remarqué comme tel, apprécié et déprécié en même temps que ses auditeurs en l'occurrence. Je l'ai aussi repéré parce que des observations menées à Londres ou à Brisbane en Australie n'ont pas autant fait apparaître l'expérience du rap de manière différenciée. Alors ça, je ne documenterai pas aujourd'hui, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Donc voilà quasiment 20 ans que je mène des observations dans les rues, les parcs, les places, les stations de métro, les transports en commun ou encore les galeries marchandes, et en particulier, ça sera au cœur de ma présentation aujourd'hui, dans la métropole lilloise. Je l'ai fait en faisant attention à la fréquence, à la variété des preuves que je rassemblais, un principe basique en ethnographie. Alors des preuves de quoi ? Bah, des preuves de l'évolution des pratiques musicales, ça, c'est pas là-dessus, je vais revenir là-dessus. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont surtout des preuves de formes de différenciation de l'écoute du rap en public, parfois associées à des formes de catégorisation sociale de celles et ceux qui l'écoutent. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui. Alors bien sûr, n'ayant fait qu'occasionnellement des observations à Paris et n'ayant fait aucun terrain à Lyon, ni à Rennes, ni à Bordeaux. Toute tentative de généralisation devra rester prudente, puisque faire de l'observation située, c'est accepter que la situation elle-même fait partie des éléments à prendre en compte. Peut-être précision associée à cette dernière remarque. Mon travail s'appuie sur une conception relationnelle du social. Alors si j'étais un rappeur, je serais clairement du côté glissant, hein, tel que Virginie Brinker l'a très bien précisé ce matin. J'ai aussi précisé que ma démarche elle vise à comprendre plutôt qu'à expliquer. Parce que les sciences sociales et les études culturelles nous ont généralement accoutumés à l'idée que nous sommes irrémédiablement attachés à des catégories d'appartenance, de classe, de genre, de sexe, d'identité ethnique, d'âge, qui régleraient, voire qui expliqueraient l'ensemble de nos interactions et l'ensemble des manières dont elles sont socialement construites et représentées. Mon point de vue relève d'une autre conception, qui consiste à dire que nos appartenances comme nos identités ne sont pas mobilisées dans toutes les situations de notre vie, que beaucoup d'autres choses se passent, ce qui n'empêche pas parfois, ça sera un des éléments que je vais essayer de préciser aujourd'hui, que des catégories sociales émergent en situation et pratiquement, et non pas par le regard du sociologue. Pour dire autrement, le nœud de l'affaire, pour aujourd'hui, ça consiste à comprendre comment des formes d'écoute sont regardées. Et quand j'observe des pratiques qui sont visibles par nous tous dans les espaces publics ordinaires, en fait, la question devient, comment regarde-t-on et à partir de quelles expériences plus ou moins partagées le fait-on ? Donc je vais décrire des moments au cours desquels les expériences du rap en public peuvent être on pourrait dire configurées par diverses épreuves de catégorisation sociale pratique qui divisent autant qu'elles réunissent. En tout cas, le potentiel est des deux côtés, diviser et réunir. Et vous le verrez, je vais projeter quelques exemples de vignettes ethnographiques que je ne vais pas vous lire, mais que je vous invite à lire, comme ça me permettra de dire des bêtises. J'ai volontairement choisi des cas où... Alors d'une part, vous verrez deux cas dans le métro, ce qui permet d'avoir des éléments dans des situations non pas exactement équivalentes, mais comparables. Et surtout parce que c'est dans ces cas, dans certains de ces cas, ce qui se passe change au fur et à mesure de la séquence. Hein, et change, reste imprévisible, et peut parfois alterner indifférence au rap et disqualification morale. Hein, c'est-à-dire que c'est pas, les choses ne sont pas établies d'entrée. Alors, concernant danser en public, alors il peut s'agir très classiquement de performance. Quand je dis performance, c'est-à-dire des séquences dansées à part entière, hein, qui visent à attirer l'attention publique. Hein, on en a tous vu, hein, une ou plusieurs personnes s'installent pour danser sur une place ou dans la rue. Donc ça ne concerne pas encore cette vignette-là, celle-là j'en parlerai après, mais allez-y. Très souvent accompagné d'ailleurs par des formes américaines de hip-hop, pour ce que j'ai observé à Lille, en tout cas, c'est évident. Et ces performances n'apparaissent pas de manière très différenciée d'autres genres de spectacles de rue, acrobates, groupes de musique, clowns. Vous savez, ces situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent à faire un cercle plus ou moins large autour des performeurs, et donc d'opérer une distinction entre le dedans de la scène publique et le dehors, d'où le spectacle n'est plus visible. On pourrait dire que la normativité de ce qui se joue dans ces moments-là concerne les formes spectaculaires en général, à la fois extraordinaires et devenues classiques dans les espaces publics des grandes villes, même si la tolérance policière à leur égard est relative en fonction des villes et des époques. Deuxième type de performance, celle qui se déroule devant des lieux culturels dédiés à l'occasion d'un concert de rap, d'une battle hip-hop, d'un festival de danse contemporaine. Et ces performances-là sont, elles, un peu plus singularisées, on pourrait dire, comme performance hip-hop. Elles bénéficient de la présence d'un public bienveillant qui profite de ces moments comme prémisse au reste de la soirée. Troisième cas, plus récent et plus occasionnel, celui d'adolescents dont la performance dans des lieux publics est filmée, visionnée et parfois commentée en direct en public, tout en étant d'abord destinée à être éditée sous forme de vidéos postées sur le net. La destination potentiellement publique de ces vidéos, elle ouvre ensuite à toute une série de commentaires successifs en ligne, hein, qui peuvent aller des plus dithyrambiques jusqu'aux jugements les plus acerbes. En tout cas, ces trois types de performances hip-hop, je dois le préciser, à la fréquence très irrégulière. On ne peut pas dire qu'il y a eu une augmentation du nombre de performances. Depuis le début des années 2000 dans la métropole lilloise, ça apparaît, ça disparaît. Donc, c'est pas très régulier. On ne peut pas dire que ce sont des choses régulières, mais qui apparaissent et qui disparaissent puis qui reviennent. En tout cas, ces formes, elles permettent la constitution de publics passagers. Et elle situe des formes de présence et d'écoute du rap qui sont plutôt exaltées et globalement quand même plutôt regardées avec hospitalité. Alors une pratique plus discrète, hein, telle que celle qui est décrite dans la vignette, que danser peut consister à esquisser quelques mouvements, un casque sur les oreilles, embarqué que nous sommes parfois dans la musique qu'on écoute en solo. Dans la vignette que vous avez là à l'écran, nous devinons ou nous croyons deviner que la jeune fille écoute du hip-hop sans avoir besoin d'entendre distinctement cette musique, car nous sommes habitués à reconnaître des bribes sonores, des gestes, des façons de jouer avec ses ancrages, d'adopter une posture, c'est-à-dire des formes de synchronisation somatique associées à ces musiques. Nous le savons ou nous croyons le savoir qu'elle écoute du hip-hop en le regardant de manière bienveillante à ce moment-là. Et nous qui échangeons des regards et des sourires amusés, dotons cette scène d'une forme éphémère de reconnaissance. Vous me direz peut-être, c'est qui ou c'est quoi ce nous ? Eh bien, c'est au moins, on va dire à minima, l'ensemble des membres présents capables de reconnaître, en fait, de connaître et d'interconnaître, à la fois la musique, pourtant à peine perceptible hein, à l'oreille, et les autres membres. Quelque chose comme une communauté sensible et complice, Gilroy dirait sans doute une communauté d'interprétation, c'est-à-dire une qui partage une culture, on pourrait dire comme ça, une culture vis-à-vis de laquelle les autres personnes présentes, qui ne se sentiraient pas membres de la communauté, ne l'expriment pas au-delà d'une simple indifférence. De ce point de vue, c'est une nuance importante avec ce que je vais décrire ensuite. En tout cas, vraisemblablement, la reconnaissance de la musique hip-hop et du plaisir pris par celle qui l'écoute forme ici un indice particulier de sa banalisation publique, une espèce de différenciation qualifiante ou positive ou valorisante, pour reprendre le terme qu'on a entendu juste avant. Cette manière de regarder avec bienveillance des jeunes filles esquisser des pas de danse sur des musiques hip-hop ou proches, je l'ai observé autant pour des adolescentes rousses aux yeux bleus que pour des jeunes femmes noires. Et lorsque ce sont des garçons qui le font, ce qui se fasse est souvent plus équivoque. J'y reviendrai pour d'autres pratiques, hein, sur la question des genres. Je ne sais pas si je le développerai, mais en tout cas, c'est sûr que pour les garçons, pour ces cas-là, en tout cas, ça ne se passe pas de la même manière. Rapper en public, chanter en public. Rapper en public peut être plus ou moins diffus, et l'environnement de la situation considérée est plus ou moins recomposé par le fait que quelqu'un chante, s'entraîne au beatbox, voire parfois même rappe et danse en même temps. Et ceci est apparu comme un élément relativement important dans le processus par lequel celui ou celle qui chante, ainsi que le fait de rapper en public, sont qualifiés ou disqualifiés. Il faut prendre en compte la densité sonore dans l'endroit, hein, qui participe à rendre plus ou moins diffuse la musique rap. Le fait que l'endroit est lui-même chargé d'une normativité et d'une police, ici au sens de rancière, qui laisse plus ou moins de place à la présence incarnée du rap et des rappeurs amateurs. Et puis un endroit où, parfois, la manière dont ces rappeurs sont regardés peut produire leur identité comme un problème public. De ce point de vue, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu observer pour la danse. Par exemple, hein, les places publiques ou les campus universitaires semblent être des cadres plutôt propices, soit à l'indifférence, soit à des différenciations qualifiantes du fait de danser ou de rapper. Pour autant, danser et chanter ne constituent pas des formes de présence publique totalement similaires. Le potentiel spectaculaire de l'un, comme les sanctions possibles à l'égard de l'autre, ne sont pas tout à fait équivalentes. Bien sûr, plus l'ambiance sonore est bruyante, moins la présence du rap chanté est audible, plus elle passe inaperçue. Lorsque la pratique devient audible, hein, donc qu'elle est visible, qu'elle est remarquée, il arrive que les personnes présentes à proximité engagent la discussion avec le pratiquant. La conversation s'appuie alors sur ce qui vient de se produire, parfois concernant le contenu poétique et esthétique de la performance, et elle peut prendre une tournure extrêmement experte entre connaisseurs, qui mettent souvent très peu de temps à se reconnaître comme tels. C'est très rapide. On se reconnaît comme expert très rapidement, notamment en faisant appel à des références comme Pauline, tu l'as évoqué juste avant. Chanter dans la rue n'est pas toujours configuré de cette manière. Cela dépend au moins de trois aspects entremêlés dans ce que j'ai observé, selon que la pratique est engagée dans la locomotion, dans le déplacement, ou selon qu'elle se joue en mode stationnaire, selon qu'il s'agit du centre-ville ou de quartiers excentrés, selon les degrés de tolérance à l'égard des modes d'occupation de la rue par les jeunes, et en fonction du fait ou non que cette présence est imposée et qu'elle souffre ou non l'évaluation par les autres. Alors concernant la vignette que vous avez là à l'écran, on peut noter que les caractéristiques ordinaires des interactions dans les transports en commun, proximité des corps, la nécessité de garder les distances, les difficultés pour préserver ce que Goffman appelle l'inattention civile, font des déplacements en métro des moments où on peut basculer assez vite de l'indifférence au jugement tacite de l'incivilité, plus rarement à l'altercation explicite. Et ce, malgré tout le travail incessant que Stéphane Tonelin a bien montré, de ce qu'il appelle le travail pour maintenir les conditions d'une cohabitation pacifique. Dans cette séquence, ce n'est sans doute pas tant ce que le jeune homme chante difficilement appropriable en situation, que les caractéristiques expressives de son rap, d'abord imperceptibles, qui deviennent progressivement une prise tangible pour être vu et regardé en train de rapper, mais aussi pour être vu et regardé comme un jeune arabe et comme un jeune de banlieue. Dernière pratique, écouter et diffuser du rap en public. Alors c'est évident qu'à la différence d'autres formes de présence du rap en public, faire vrombir les basses d'un titre Dirty South depuis sa voiture, arrêté au feu ou en traversant la ville, est une pratique qui passe difficilement inaperçue, celle-là. En fonction des endroits de la ville concernée, mais aussi en fonction des attitudes plus ou moins provocatrices des personnes dans la voiture, ces pratiques peuvent être regardées de manière amusée ou à l'inverse de façon confondante. Et c'est bien souvent lorsque sont repérés, c'est-à-dire en partie constitués comme tels, des types de voitures, des catégories de conducteurs et des comportements de défiance que l'écoute de ces musiques et leur présence ostensible dans l'ambiance sonore sont regardées, voire commentées parfois, comme incivil et insupportable. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le cas des voitures, il y a sans doute beaucoup plus que ça à dire ici. Peut-être juste évoquer ce que dit Paul Gilroy, par exemple, dans Darker Than Blue, hein, pour qui la place conséquente prise par la voiture aux États-Unis dans la culture et les mobilités des jeunes Afro-Américains, elle a été au détriment d'une forme de culture publique et de l'épaisseur qu'avait la musique dans la vie quotidienne partagée dans les quartiers populaires. Hein. C'est un des éléments qui, selon Gilroy, a participé à détruire tout le potentiel cosmopolitique du hip-hop et de ce qu'il avait naguère appelé l'Atlantique noire. Moins impromptues sont les formes de diffusion du rap via la fonction haut-parleur, une radio portative, des enceintes portatives. Alors, l'utilisation de la fonction haut-parleur, je l'observe quasiment plus dans la métropole lilloise, alors qu'elle était très fréquente dans le métro ou les galeries marchandes, on va dire du milieu des années 2000 jusqu'au tournant des années 2010. Les jeunes gens qui le faisaient écoutaient souvent du rap français, parfois dans un geste de défiance, mais pas toujours. Et l'émergence contingente de la catégorie jeune de banlieue, elle s'appuyait alors à la fois sur cette écoute publique d'un genre de musique, d'un mode de diffusion nasillard, hein, si, quand on pousse le son à fond du haut-parleur de nos téléphones, en tout cas à ces époques-là, ça en rajoutait dans le côté nasillard. Et cette écoute publique, ce mode de diffusion était souvent perçu comme incivil. Et la catégorisation jeune de banlieue, elle était aussi évidemment associée au regard que les personnes présentes échangeaient sur le fait que ces personnes évitaient absolument de croiser le regard du jeune qui était en train de le faire, et parfois sur l'attitude de défiance qu'il adoptait. L'événement que je décris sur... Non, ce n'est pas celle-là, il faut que je vous montre la bonne peut-être. Donc l'événement que je décris dans cette dernière vignette, il est assez symptomatique. La catégorie jeune de banlieue, elle émerge ici dans un moment de trouble et d'altercation. Là, pour le coup, il y a une altercation qui se finit bien, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment lieu. Hein. Mais le second groupe, celui qui arrive dans la scène que je décris ici, il est classé comme jeune de banlieue dans les échanges de regards des observateurs présents, dans le jugement tacite de l'altercation avec l'autre groupe, comme de la musique rap embarquée. Hein. Les trois vont ensemble, c'est pas chacun de ces éléments, c'est qu'en fait tout ça se passe en même temps dans la manière dont ils sont regardés. Et pour le coup, la différence du premier groupe, des jeunes qui écoutent de la techno sur parvis, on va dire qu'ils partagent avec eux la catégorisation jeune, mais pas de banlieue. Hein, de banlieue, c'est clairement le second groupe qui est affublé de cette qualification. Donc la disqualification morale associée à la catégorisation jeune de banlieue, elle se produit assez ordinairement dans ces moments où des jeunes gens défient les règles de l'inattention civile qui organisent classiquement les espaces du centre-ville en particulier, à la fois dans la forme d'une écoute incivile ou perçue comme telle, que dans la transformation de la confiance minimale en méfiance réciproque. De ce point de vue, l'expérience du rap en public subit ce que Karim Amou a nommé des opérations de conversion, mais des opérations de conversion d'un autre genre que celle qu'il a analysée à propos des premières formes de médiatisation de la pratique du rap en France. Mais dans les deux cas, que la publicité soit celle des cérémonies télévisuelles ou qu'elle relève de l'expérience des espaces urbains, ces conversions rendent solubles l'une dans l'autre l'écoute du rap et l'appartenance à une classe d'âge et sociale. Donc vous l'aurez compris, hein, si les musiques hip-hop se sont banalisées en même temps qu'elles ont duré, leur banalisation semble pour le moins inachevée du point de vue de la présence et de l'écoute du rap en public. J'ai à peine évoqué les cas où l'écoute du rap passe inaperçue, et ces cas de fait sont plus difficiles à observer, mais sans aucun doute très très nombreux. Quand la musique rap est perçue, quand elle peut être différenciée et valorisée, valorisante, parfois aussi, ou tout du moins accueillie avec bienveillance, mais elle est d'autant plus différenciée, elle apparaît de façon d'autant moins banale qu'elle est associée à des catégorisations sociales et à un jugement moral. La question qui écoute quoi et à partir de quelle position sociale? Est-ce que les pratiques d'écoute sont liées à des appartenances de classe, par exemple? À mon avis, n'est pas une question pertinente en amont de la recherche, mais il arrive par contre qu'elle se pose en pratique. C'est particulièrement le cas lorsque la présence du hip-hop et la catégorie d'appartenance, cette catégorie peut être sociale, générationnelle, ethnique, identitaire, de celles et ceux qui l'écoutent, elle est produite comme un trait pertinent de la situation. Cette différenciation publique du rap, attachée à des formes pratiques de catégorisation et de jugement moral, doit aussi, me semble-t-il, être envisagée à la confluence d'au moins trois phénomènes. L'association réitérée rap, jeunes de banlieue en bande, on la connaît. Deuxièmement, la dégradation générale et progressive de la confiance requise pour les relations dans les espaces publics en méfiance, voire en défiance. Et ces dernières années, les choses ne se sont pas rangées de ce point de vue. Regardez comment nous regardons dans les espaces publics. Et puis l'affaiblissement de l'hospitalité, de la tolérance à l'endroit des expérimentations et des incivilités adolescentes et de l'occupation des jeunes par les bandes. Le tournant des années 90, identifié historiquement par Karim Amou, celui qu'il a appelé le tournant de la redistribution des illégalismes populaires, c'est-à-dire ce moment où la visibilité de la jeunesse racisée en problème d'ordre public est exacerbée, l'association de la pratique du rap aux affrontements entre bandes de rue, qui évidemment ont participé elles-mêmes à cette transformation, le soupçon de la délinquance. Donc ce tournant me semble être relativement intéressant pour faire l'hypothèse que ce que j'observe s'inscrit en partie dans cette histoire. C'est-à-dire aussi une histoire de la consistance sociale du rap en France, de ce à quoi il est très souvent affilié, une histoire qui de fait a réduit le champ des possibles et l'imaginaire associé, et qui ne permet plus de revenir en arrière. C'est évident que pour le coup, les débats relatifs autour de l'authenticité des rappeurs, de la street credibility, etc., ont participé à ce mouvement. Mais pour autant, les phénomènes que j'ai ici décrits ne sont ni réductibles à cette histoire, ni même déterminés par elle. Non seulement faire de l'ethnographie, même pendant 20 ans, ce n'est pas faire de l'histoire, mais c'est le sens même de l'histoire que d'être contingente. Et donc ces phénomènes restent, on va dire, en partie imprévisible, hein, malgré un champ des possibles qui s'est apparemment réduit. En effet, tandis que les textes des chansons polarisent régulièrement les controverses publiques à l'endroit du rap, je pense notamment au travail d'Anthony Péqueux sur la chanson Jeteur de pierre de Sniper, les évaluations pratiques de son écoute en public, elles sont beaucoup plus détachées des textes. La réduction sociale et historique du rap français à ses textes et à ses rapports avec la banlieue préfigure pour autant sans doute l'expérience que l'on peut en faire, mais pour comprendre les situations publiques dans lesquelles les musiques hip-hop sont engagées, et ce sont bien souvent aussi des musiques américaines, il est nécessaire de tenir compte de la normativité publique, des catégorisations sociales pratiques, de la dégradation progressive de la confiance, mais aussi comme des modalités de présence de la musique dans la texture de l'expérience citadine. À cet égard, les modalités de présence et d'écoute du rap en public, elles ont sans doute, sans aucun doute, même également à voir avec les formes musicales du hip-hop. Quand je dis formes musicales du hip-hop, je ne veux pas parler d'entité esthétique figée, ni d'homologie formelle entre. Bref, c'est pas sur ce registre, mais plutôt comme les résultats des manières de les inventer, de les produire, c'est-à-dire aussi des façons de les écouter et des habitudes d'écoute associées. Et parmi les nombreuses qualités et propriétés ainsi acquises par les musiques hip-hop, d'ailleurs, je trouve que Maxence Déon, hier, a très bien engagé l'analyse de ce que pourraient être ces formes particulières. Et aujourd'hui, Adorno serait obligé d'accepter que ce sont des musiques nouvelles, novatrices, atonales, disharmoniques, donc typiquement le genre de musique qui ont un sens politique pour Adorno. Bref, le caractère itératif du rap, ainsi que le volume sonore favorisé pour les goûter, sans doute participent spécialement de leur potentiel public. Et il faudrait peut-être aussi s'intéresser à la grande plasticité du rap, qui le rend à la fois adaptable, mais aussi souvent précurseur aux sonorités du moment, et donc tout particulièrement favorable aux habitudes d'écoute jeune, aux expériences puissantes recherchées, aux besoins d'expression de soi et aux tactiques de l'esquive. Là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt contre-intuitif pour moi, puisqu'à chaque fois que les étudiants viennent me voir pour faire un mémoire sur la jeunesse et le rap, je leur dis « ouais, enfin, bon... j'en écoute aussi, j'ai perdu quelques cheveux depuis, etc. » Donc j'avais plutôt tendance sur la question de la légitimité, de l'underground, à chaque fois chouflé, à chaque fois qu'il venait avec ces éléments-là. Et mon hypothèse, elle était plutôt, le rap, il est hyper banalisé. Je veux dire, c'est la plus grande culture musicale dans le monde aujourd'hui. Enfin, on ne va pas en faire des tonnes. Et puis, de fait, c'est vrai qu'en termes de présence et d'écoute en public, et la différence pour moi entre les terrains français et ceux que j'observais ailleurs, marque que situe le fait qu'elle n'est pas complètement banalisée.